Destruction, bombardement, incendie, explosion, confiscation, pillage, recel, spoliation, vol. C'est fou les mots qui disent la guerre et ses ravages, les violations du droit et de l'histoire. C'est fou les mots de l'actualité. Destruction, mais aussi réparation, restitution, bien commun, tels sont les mots recensés par Marie Cornu parmi beaucoup d'autres pour son dictionnaire comparé du droit du patrimoine culturel. Travail collectif, bien sûr, et incroyablement volumineux. 1000 pages pour comprendre les nuances et les variations du droit du patrimoine dans 10 pays différents. Bonjour Marie Cornu.
Bonjour.
Vous êtes juriste et directrice de recherche au CNRS, spécialiste des biens culturels, et vous avez donc coordonné cet ouvrage qui en est à sa deuxième édition, une édition augmentée, puisque la première date de 2012, c'est bien cela?
Oui, c'est exact.
Alors, comment définir ce mot de patrimoine qui sert aussi bien à désigner ce que je peux hériter de mon père, mais aussi la cathédrale Notre-Dame?
Alors, définir le patrimoine, c'est un exercice qu'on pourrait faire en regardant un peu le corpus du droit international, puisqu'il y a des textes. Alors, le droit international s'est intéressé au patrimoine culturel ou bien culturel. Le premier terme apparaît dans les textes, c'est bien culturel. Les premiers textes datent de l'après-Deuxième Guerre mondiale, où effectivement il y a des phénomènes de destruction massive qui font que l'UNESCO va s'intéresser à la question de la protection du patrimoine. Donc, on a des notions partagées. Le patrimoine, ce sont tous les éléments, biens meubles ou immeubles, qui représentent une valeur symbolique pour les États et peut-être aussi pour d'autres groupes humains. Les deux critères fondamentaux sont sans doute le critère de l'histoire, de la valeur historique et de la valeur artistique, même s'il y a d'autres déclinaisons de l'intérêt qu'on peut porter à ces éléments. Donc il y a une sorte de notion partagée, mais cela étant, la notion de patrimoine, il faut aussi aller la chercher dans chaque État et parfois dans chaque région, dans chaque communauté, puisque c'est une affaire, principalement une affaire d'État, la définition du patrimoine.
Pourquoi ce glissement de bien culturel à patrimoine culturel ?
Alors, le bien culturel, on l'a utilisé dans la Convention de 54, qui est le premier texte à paraître et qui gouverne les règles de protection des biens culturels en cas de conflit armé. C'est vraiment le contexte guerre qui a produit ce texte-là de droit international. Et on ne sait pas très bien pourquoi on utilise ce vocabulaire de bien culturel. Sans doute un effet de traduction, puisqu'en anglais, c'est « cultural property » qu'on utilise. Donc, on traduit par bien culturel, mais ce n'est pas un vocabulaire très utilisé. De mon point de vue, bien culturel, ça renvoie quand même à l'idée qu'on est sur de la propriété des objets qui sont susceptibles d'un droit de propriété, donc qui sont potentiellement des objets qui circulent, mais qui ont en même temps une dimension symbolique. Donc, bien culturel, ça fait valoir l'hybridité, effectivement, de cette notion à la fois objet de propriété, mais propriété singulière parce que propriété collective.
Mais patrimoine culturel peut faire exister un patrimoine immatériel, ce qui est maintenant le cas, puisque l'UNESCO reconnaît le patrimoine immatériel de l'humanité.
Tout à fait. Alors, c'est vrai que les premiers textes, que ce soit dans les droits nationaux ou dans les droits internationaux, se sont concentrés sur le patrimoine matériel, sur la matérialité, y compris dans la conception des lois. On s'est attaché à préserver l'intégrité matérielle des biens. Et là, la dimension du patrimoine immatériel est venue beaucoup plus récemment dans les systèmes, dans le droit international et dans les systèmes nationaux. Pour vous donner un exemple, dans le droit français, quand on a adopté le Code du patrimoine en 2004, la définition du patrimoine, nous avons une définition du patrimoine, a été concentrée sur les choses matérielles. Et on a ajouté le volant immatériel uniquement en 2016. Dans le droit international, c'est la convention de 2003 sur la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel qui ouvre cette définition du patrimoine et qui l'ouvre d'une façon très nouvelle. Parce qu'on ne définit plus des choses à protéger, ce qui était auparavant la conception portée dans les textes de protection du patrimoine, mais on définit donc des choses à protéger en raison de leur valeur historique, artistique, etc. Mais on protège des choses parce que des groupes humains les reconnaissent comme faisant partie de leur patrimoine. Donc on n'est plus sur une conception d'un droit des personnes sur ces choses. Donc ce qui change un peu, on y a vu une sorte de changement de paradigme dans la protection du patrimoine.
Il y a donc une notion partagée de ce patrimoine à l'échelle internationale, si je vous suis bien, Marie Cornu. Mais il y a quand même, entre les États, et vous le dites, des grandes différences, des divergences, mais même dans la conception de ce qu'est le patrimoine. Parce que la permanence des choses n'est pas du tout la même en Europe où finalement, c'est assez récent d'ailleurs, la préservation des bâtiments, des vieilles villes, etc. C'est 18e siècle à peu près, et puis beaucoup au 19e siècle. La permanence des choses n'est pas la même en Europe, en Asie ou en Afrique.
Oui, oui, tout à fait. Les conceptions sont très, très, très différentes. Sous ce terme... Alors, on ne va pas utiliser nécessairement le terme de patrimoine, en l'occurrence. Dans les textes internationaux, on est bien contraint à trouver un vocabulaire commun. Mais dans les législations nationales, on va observer des variations de vocabulaire. Ces variations de vocabulaire vont dire aussi des choses, la façon dont on conçoit le patrimoine. Et en Asie, c'est là où paraît en premier lieu, vous évoquez le patrimoine immatériel, c'est une des premières, sont les premières législations en Asie qui reconnaissent ce qu'on a appelé les trésors nationaux vivants. Donc on protège non plus des objets, mais on protège des savoirs ou des pratiques artistiques, des pratiques artisanales, pratiques théâtrales, etc. Donc on va se soucier de ce que ces pratiques se transmettent, perdurent, avec des dispositifs de protection, effectivement, qui n'ont rien à voir avec la protection du matériel.
Donc, en quoi un dictionnaire permet d'appréhender ces différences ? Parce que chaque mot pèse ? Parce qu'on est dans le domaine du droit et que la précision du vocabulaire est absolument essentielle ?
Les mots disent des choses, la façon dont les États ou alors, je parle des États parce que très fréquemment, ce sont les États qui posent les règles de protection, mais dans des États qui se structurent sous la forme fédérative, ça va être des unités, des entités régionales. Par exemple, en Suisse, les cantons, en Allemagne, les Länder, en Belgique, alors la répartition des compétences est extrêmement complexe, en Espagne, les communautés. Et la façon de désigner les choses va renseigner d'une façon assez utile sur la conception développée. Il peut y avoir des conceptions plus ou moins restrictives du patrimoine. C'est-à-dire qu'on va parfois chercher à protéger quelques éléments. Et puis dans d'autres cas, on va avoir une politique extrêmement protectrice. On cite très volontiers le cas de l'Italie, notamment des systèmes italiens, du système grec. Le système français est un peu entre deux, mais voilà, ces désignations, effectivement, sont très intéressantes à observer, ces variations de vocabulaire. Et on en a un exemple de ces variations de vocabulaire dans les versions linguistiques du traité de l'Union européenne. On a utilisé un terme qui est le terme de trésor national. Et sous ce terme de trésor national, on entend que ne doivent être protégés que les biens les plus importants. Les biens qui sont vraiment d'importance fondamentale pour les États. Mais en réalité, chaque État a reçu, ou chaque État membre a déployé une version, une traduction de cette notion de trésor national différente qui peut orienter vers une lecture plus ou moins extensive de cette notion-là.
Alors Marie Cornu, on va revenir sur ce dictionnaire comparé du droit du patrimoine culturel, sur certaines de ces notions, revenir aussi sur l'actualité Gaza, Kiev, qui sont les principaux théâtres de destruction ces derniers mois. Mais on va d'abord faire un pas de côté avec notre coup de fil hebdomadaire, c'est ailleurs. À ailleurs à Niamey, au Niger, avec Bachir Gentil. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes slameur et fondateur de l'association Art et Racines, à l'origine du Festival international Slam Écolo. Le slam et l'écologie, c'est un style musical ou c'est un engagement citoyen ?
C'est un engagement citoyen. Les artistes se sont réunis pour essayer de nommer Slam comme étant l'ambassadeur écologique. Donc on a créé ce festival pour donner voix à l'écologie à travers l'art du slam.
Donc ça veut dire que vous organisez à la fois des concerts, mais aussi des ateliers, et ce pendant 5 jours.
Exactement. On a des panels, on a des caravanes, on a des séances de plantation d'arbres et beaucoup d'autres choses.
Avec des artistes qui viennent d'où ?
Avec des artistes qui, cette année déjà, vont venir du Bénin, du Togo, du Mali et bien sûr, vont retrouver les artistes du Niger.
Alors, on sait que l'Afrique est la première victime du changement climatique et de la crise écologique. Est-ce que vous avez l'impression que le public en a conscience ?
Depuis déjà 2 ans que ce festival se tient, et je pense qu'il y a quand même une prise de conscience qui est assez énorme. Et oui, je pense qu'on n'a pas besoin d'être scientifique ou artiste pour le savoir. À Niamey, il faut juste sortir à 13 heures, la chaleur nous le dit, la pluie aussi qui ravage nos écoles, nos maisons et tout, déjà parle à notre place.
Et est-ce que la classe politique est elle aussi consciente de cela et tente d'agir ?
Je pense que oui, on peut dire que la classe politique, les citoyens, les artistes, tout le monde en a conscience et tout le monde essaie d'apporter une pierre à l'édifice pour le changement.
En quoi la musique, Bachir Gentil, peut aider à cette prise de conscience ?
La musique peut aider à cette prise de conscience parce qu'ici, la jeunesse est beaucoup consommatrice de la musique. Et quand nous faisons des concerts slam, on donne quand même un public assez incroyable. Et nous profitons de ce public-là pour passer des messages d'éco-responsabilité, des messages qui peuvent nous aider à inverser les tendances néfastes pour le changement, pour l'environnement.
Et la parole, c'est important en Afrique, hein ?
Exactement, la parole qui est déjà un patrimoine chez nous. Et donc le slam est perçu aujourd'hui comme étant juste une continuité déjà de quelque chose que pratiquaient nos ancêtres. Et c'est que c'est aussi un art qui est accueilli par la jeunesse, qui est accueilli par les enfants, qui est accueilli par les plus âgés, parce qu'on parle en langue, parce qu'on parle en français, parce qu'on parle dans toutes les langues que les gens peuvent comprendre. Et donc du coup, ça devient quelque chose de participatif.
Et vous allez aussi intervenir dans la ville pour marquer les esprits avec, vous l'avez dit, des plantations d'arbres, des graffitis environnementaux. Donc personne ne pourra échapper au mot d'ordre.
Ouais, exactement. Donc déjà avec les graffitis, il faut se dire que pour nous, c'est l'occasion de créer des ambassadeurs écologiques visuels. Donc on va faire des graffitis, on va aussi essayer de rénover certains ronds-points en faisant des illustrations à partir des objets recyclés. On va créer des monuments et donc ces monuments-là, ces graffitis-là, qu'on comprenne ce qui est écrit, qu'on ne comprenne pas ce qui est écrit, je pense qu'il y a déjà un message visuel qui peut être transmis. Maintenant, pour ceux qui peuvent lire, il y a encore un message déjà écrit qui peut être transmis. Donc pour nous, c'est un ambassadeur, ce sont des ambassadeurs écologiques visuels que nous essayons de faire, mais aussi pour initier les gens à ce que chez eux, qu'ils puissent reprendre la même chose. On peut créer de la beauté à partir de la poubelle, par exemple.
Merci beaucoup, Bachir Gentil, et bravo. Le Festival international Slam Écolo dans la capitale nigérienne, c'est du 17 au 21 juin.
Hey. Ici Colombo, les plus curieux veulent savoir c'est qui Magnard. Je vois ce qui se passe, c'est Kanye Bay. Ah. Chocolat Showboys. Et tu t'étonnes pourquoi elle aime le CFML. Bref, écoute, last, listen. Yeah, je parle de femmes, on croit que j'en vois des tonnes. Si seulement vous saviez, j'écris des lettres qui font des sons et je vois des petites impressionnées. Je reste chez moi, je réponds aux com, en parallèle, je gère des comptes. J'ai un club à faire tourner, j'ai pas le temps de faire l'intéressé. Mais je reste qu'un homme et tous les soirs je m'endors rêvant d'une muse. Mais au plus j'avance, au plus je me dis que les rencontres se font rares. Un jour viendra le moment où tout le monde se demandera c'est qui ma jolie go, ma jolie garce, ma jolie femme, ma jolie niard. Hey, bien sûr, c'est très simple. Si t'es fier de ta partenaire, tu répètes après moi. Merci, Kanye baby. Ma jolie go, ma jolie garce, ma jolie femme, ma jolie niard. Hey. Pour toutes mes belles niards de Bruxelles jusqu'à Singapour. Première classe, internationale. Yeah, ma jolie go, ma jolie garce, ma jolie femme, ma jolie. Jolignard. Que tu sois demi-mour ou demi-rose, que t'es, c'est pas mon dos. Summer body à la cambre et je fais du sport avec culot. Elle va pas mendier 50 euros fin du mois pour faire ses ongles. Il suffit de rentrer dans un shop, tout sera payé, elle porte mon nom. Hey. Non, je rigole indépendante sans que je sois là. J'arrive comme un Congolais, je la débarque comme bruxellois. Sweet et piquante à la fois, mon point faible commence par la voix. Vos histoires de cul n'intéressent pas votre agent K. Et je reste qu'un homme et tous les soirs je m'endors et vends une muse. Mais au plus j'avance, au plus je me dis que les rencontres se font rares. Un jour viendra le moment où tout le monde se demandera c'est qui ma jolie go, ma jolie garce, ma jolie femme, ma jolie niard. Hey. C'est très simple, si t'es fier de ta partenaire, tu répètes après moi. Merci, Kanye baby. Ma jolie go, ma jolie garce, ma jolie femme, ma jolie niard. Hey. Pour toutes mes belles niards de Bruxelles jusqu'à Singapour. Première classe, internationale. Yeah, ma jolie go, ma jolie garce, ma jolie femme, ma jolie niard. Hey. Kanye baby, yeah. Ma jolie go, ma jolie garce, ma jolie femme, ma jolie niard, hey. Ma jolie go, ma jolie garce, ma jolie femme, ma jolie niard, hey.
Chrissy sur RFI, nouvelle EP pour un jeune artiste belge, Jolignard étant une expression bruxelloise. Marie Cornu, comment sauver, conserver le patrimoine culturel dans le monde? Sauver et conserver, là encore, ce sont deux termes qui ne recouvrent pas exactement les mêmes notions. Conserver, et conserver quoi? Comment?
Alors cette notion de conservation, elle est fondamentale dans les textes. Elle irrigue l'ensemble à la fois des textes de droit international et de droits nationaux, hein, la question de la conservation. Alors, qu'est-ce que ça signifie conserver un monument, conserver un objet ? Le droit va mettre en place des procédures pour assurer la conservation. Le droit va s'assurer que les personnes les plus compétentes vont assurer cette mission de conservation en créant des corps spécialisés, en imposant des contraintes attachées à la préservation de l'intégrité, souvent de l'intégrité matérielle des biens. Hein. Les premiers textes, c'est ça. Hein. On va s'intéresser à la matérialité des choses, faire durer les choses matériellement. Mais finalement, le contenu même de cette notion de conservation, alors même qu'on sait poser, on sait déterminer et fixer des obligations de conservation, la notion même de conservation, elle va être nourrie par d'autres savoirs que le savoir du droit. On a besoin de collaborer pour comprendre le droit du patrimoine avec des conservateurs, avec les sciences qu'on appelle les sciences de la conservation, avec des historiens d'art, qui vont venir nourrir cette notion de conservation. Et c'est plus à la pratique et aux réflexions développées par les professionnels qu'on va comprendre cette notion de conservation.
Alors, il y a eu un débat au moment de l'incendie de Notre-Dame de Paris pour savoir si on refaisait la flèche de Viollet-le-Duc, c'est-à-dire celle du 19e siècle, ou si au contraire on inventait quelque chose de plus contemporain. Donc conserver quoi? C'est conserver Notre-Dame telle qu'elle a été construite à l'origine au Moyen-Âge, au 19e siècle, ou penser l'évolution en fait? Et c'est passionnant comme
tout
réflexion.
Tout à fait, tout à fait. Et on avait, j'allais dire, si on se rapporte au texte contraignant, on avait le choix, mais on a pensé qu'il fallait restaurer la cathédrale Notre-Dame dans sa dernière identité visuelle. Et on a pensé cette règle comme obligatoire. Et en fait, on s'est référé à quoi ? On s'est référé essentiellement à un texte qui a été élaboré en 64, qui est la Charte de Venise, et qui a été élaboré par les professionnels, qui est un texte plus de déontologie que de droit dur. Hein. On oppose le droit mou et droit dur, c'est-à-dire droit mou, c'est quelque chose qui n'est pas assorti d'une contrainte légale. Mais en attendant, c'est à ce texte-là qu'on s'est adossé pour dire il faut transmettre la cathédrale Notre-Dame dans l'état où elle était juste avant l'incendie. Et c'est comme si c'était une doctrine, et une doctrine qui s'imposait.
Alors en période de guerre, et nous vivons aujourd'hui dans le monde en période de guerre, cette question de la conservation et de la protection est cruciale, tant du point de vue symbolique que pratique. En avril 2023, un an donc après le déclenchement de l'agression russe en Ukraine, l'UNESCO a décidé le classement de la ville d'Odessa en patrimoine mondial en péril. Et c'était, pour le maire de l'époque, Gennady Troubanov, une grande victoire.
C'est une victoire colossale pour les Odessites et pour toute l'Ukraine. La ville mérite vraiment qu'on s'y intéresse. Elle a un statut de ville européenne. Elle a été construite par de grands architectes italiens. Elle a été administrée par des Français, des Grecs. C'était à l'origine une ville européenne. C'est pourquoi je ressens de la joie et de la fierté, notamment parce que cela se produit à un moment où nos forces armées défendent notre indépendance. Nos soldats se battent aujourd'hui pour chaque morceau de notre terre. Nous, nous nous sommes battus pour notre ville, pour préserver son patrimoine culturel. Lorsque la guerre a débuté, nous avons empilé des sacs de sable autour de tous les monuments, de l'opéra, des statues, pour les préserver. J'avais lancé des appels au ministère de la Culture, au ministère des Affaires étrangères, pour qu'ils soutiennent notre demande à l'UNESCO. Mais peu de gens y croyaient. On nous disait « Vous pensez vraiment que ça vous protégera ?» Moi, je pense que ça nous protégera.
Il y a donc le droit, le centre-ville d'Odessa protégé, et puis il y a aussi la débrouille. Est-ce que le mot « système D » est dans votre dictionnaire, Marie Cornu?
Alors non, on n'a pas introduit ce terme-là, mais on a bien conscience qu'entre ce que dit le droit et ce qu'on fait du droit, il peut y avoir des distances à peu près considérables. Et on a essayé de les restituer, puisque dans les définitions, dans le dictionnaire, on donne des définitions, mais on se livre à une analyse aussi, il y a des remarques pour pointer les difficultés d'interprétation, d'efficacité, d'effectivité du droit.
Est-ce que l'actualité a guidé votre travail? Parce qu'il y a un vrai péril sur les patrimoines, il y a la guerre en Ukraine, on va parler aussi de Gaza, mais je lisais ce week-end dans le journal Le Monde que des lieux, des monuments comme l'Acropole d'Athènes ou les châteaux de la Loire en France souffraient du réchauffement climatique et devenaient de fait en péril.
Alors, l'actualité a effectivement influencé notre travail, notamment l'actualité fait que de nouveaux vocabulaires s'introduisent dans le droit. Je pense en particulier à la notion de destruction intentionnelle. Je pense à la notion aussi, alors sur un autre registre qui est celui de la circulation des biens culturels et du développement du trafic illicite des biens culturels, au terme de provenance, hein, qui s'invite là très très sérieusement dans les textes, dans les pratiques, que ce soit les pratiques professionnelles ou les pratiques institutionnelles. Donc, un certain nombre de textes ont été introduits. Je pense encore au terme de refuge. Le refuge, c'est un dispositif qui permet d'accueillir des patrimoines qui sont en péril dans un pays, que ce soit un pays atteint par des troubles de guerre, des troubles terroristes ou encore des catastrophes naturelles. Donc la question climatique, elle s'invite aujourd'hui très fortement dans la question de la protection du patrimoine et on a essayé d'en tenir compte effectivement.
Alors on parlait à l'instant de l'Ukraine, il faut bien sûr parler aussi de la Palestine et de Gaza. L'historien et directeur de recherche au CNRS, Fabrice Virgili, avec une trentaine de chercheurs, a d'ailleurs lancé un programme pour faire l'inventaire des bâtiments de Gaza, car oui, il y a un patrimoine dans l'enclave.
C'est souvent une surprise. Hein. Gaza est effectivement connu plutôt comme une prison à ciel ouvert. Le nom est souvent utilisé, une zone urbaine, dense, un peu poussiéreuse. Mais en fait, quand on s'intéresse de près à Gaza ou quand on connaît Gaza, on sait qu'il y a un patrimoine d'une grande richesse sur plusieurs millénaires et que ce patrimoine existe à Gaza, fait partie du quotidien dans lequel vivaient, j'ai malheureusement, je pense qu'il faut maintenant le dire au passé, les Gazaouis, c'est-à-dire que des mosquées, des vieilles maisons de la période ottomane, des sites archéologiques découverts il n'y a pas si longtemps, il y a une trentaine d'années, font partie de ce qu'on peut trouver quand on se promène, même si on ne se promène plus, dans Gaza.
Et vous dites, le constat est terrible, que les deux tiers de ces bâtiments, de ce patrimoine, a été détruit.
Oh, j'irai plus loin actuellement, c'est-à-dire que notre projet a commencé il y a un peu plus d'un an. C'est vrai qu'il y a un an, on prenait encore des précautions sur endommagé, détruit, et sur le caractère soit de dommages collatéraux ou de volonté de détruire. Depuis un an, les bombardements n'ont cessé, sauf pendant la trêve, mais ils ont repris. Et on voit bien qu'il y a une volonté délibérée, méthodique, de détruire le patrimoine de Gaza, de détruire beaucoup d'autres choses, mais y compris le patrimoine. Un exemple, le marché Al-Qassiriya, dit aussi le souk de l'or, le marché de l'or, qui est une rue finalement couverte 150 à 200 mètres, comme beaucoup de souks le sont dans les pays du Moyen-Orient ou du Proche-Orient, a été bombardé à 3 reprises au cours de 6 mois, détruisant la partie centrale, puis une des 2 portes qui est l'ancienne porte de la ville et la dernière. Et ce côté systématique, méthodique, on le retrouve pour beaucoup des bâtiments qui ont été détruits, sans parler de ceux qui sont complètement arasés ensuite, à l'explosif ou par le passage de bulldozers ou des chars.
On peut penser reconstruction ?
Il faut penser reconstruction, d'abord parce que Gaza a aussi une histoire de la reconstruction. En 1917, pendant le premier conflit mondial, les Britanniques et les Français accessoirement avaient fortement bombardé la vieille ville de Gaza qui était tenue à l'époque par l'armée ottomane, et cette ville a été reconstruite. Il faut penser reconstruction parce que les habitants de Gaza le montrent de toutes sortes de manières, y compris dans la situation actuelle, un attachement à ce patrimoine. Cela fait partie de leur cité, de leur environnement. Et donc, bien sûr, il y a d'autres priorités quand on pense reconstruction. J'ai plus travaillé sur la Seconde Guerre mondiale. On pense vraiment aux urgences, les fluides, l'eau, le système sanitaire, les écoles. Mais ce serait une grave erreur d'oublier le patrimoine. Et de nombreuses villes dans le monde qui ont été détruites, parfois rasées, ont montré après-guerre combien il était important de reconstruire à l'identique, différemment, ce patrimoine. Et en tout cas, d'en garder, c'est pour ça que nous faisons cet inventaire du patrimoine bombardé, toutes les traces possibles, bibliographiques, historiographiques, photographiques, pour aider le moment venu à la reconstruction.
Situation à Gaza qui justifie donc l'entrée dans votre dictionnaire comparé du droit du patrimoine culturel, Marie Cornu, de ce terme de destruction intentionnelle. Un dernier mot, mais qui est important et qui concerne l'ensemble de la planète, l'ensemble des pays, c'est le mot de restitution. Là aussi, c'est un enjeu très, très contemporain avec le retour de certaines œuvres dans leur pays d'origine parce qu'elles ont été spoliées par des vols, par la guerre, par la colonisation. C'est un mot qui fait l'actualité, en fait. Aussi.
Oui, il y a tout à fait une actualité du droit, puisqu'avec les, un peu ce qu'on pourrait appeler les remontées de l'histoire coloniale, la question des spoliations des biens juifs, la question aussi des restes humains qui sont présents dans les collections, cette question de la restitution, elle devient très importante. Du point de vue des mises en forme, c'est d'autant plus complexe que parfois c'est les dépossessions qui ont eu lieu, notamment dans les périodes coloniales, n'étaient pas saisies par le droit ou en tout cas ne permettent pas aujourd'hui d'assurer ces restitutions. Donc il y a toute une réflexion sur comment mettre en mouvement, comment mettre en forme juridique, quelle grammaire juridique utiliser, donc d'où l'importance et l'intérêt d'utiliser et de revenir sur ces termes de restitution, il y a aussi le terme de retour.
C'est un secteur en tout cas et un vocabulaire qui est très mobile, très évolutif et on ne peut que s'en réjouir. Merci Marie Cornu, le dictionnaire comparé du droit du patrimoine culturel est publié aux éditions du CNRS, c'est 1000 pages. Peut-être pas pour tout le monde, mais indispensable pour tous les étudiants, juristes et chercheurs qui travaillent sur ce domaine. De vive voix, Pascal Paradou à la présentation, programmation Cécile Lavolo, Laura Pinto à la réalisation. Vous avez là toute l'équipe de l'émission. On vous souhaite une bonne journée.